Alors, je dirais que la végétalienne, ça m'a pas du tout étonnée. C'était exactement ce que j'ai entendu à l'époque où j'ai étudié les végétaliens. Comme cette étude date d'il y a à peu près 20 ans, déjà le végétarisme avait un peu de la peine à être compris. On se demandait si moi-même j'étais pas une adepte, etc. Donc il y avait un a priori assez négatif sur le végétarisme à l'époque. Alors, je vous parle même pas de l'a priori qu'il y avait sur le végétalisme. Maintenant, on pourrait dire que le végétarisme passe très bien. C'est dans les normes. Ça ne peut qu'aller avec les injonctions qu'on donne maintenant aux mangeurs et aux mangeuses, hein, puisqu'on leur dit au moins 5 fruits par jour, 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe très bien. Le végétalisme, ça pourrait passer encore relativement mal dans le discours des nutritionnistes, qui s'inquiètent toujours de savoir si l'enfant en développement va avoir suffisamment de tous les groupes d'aliments. On voit très bien, quand on écoute cette jeune femme, voir qu'elle doit quand même penser un petit peu son alimentation. Elle ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, elle fait assez typiquement partie des personnes que j'avais étudiées, puisqu'elle est elle-même, elle travaille dans les médecines dites parallèles, hein, puisqu'elle est chiropracticienne. Donc elle a une approche qui au premier abord semble surtout fondée sur son envie de protéger les animaux de l'abattage. Hein. Elle est choquée par le fait qu'on puisse tuer pour manger. Et puis après, elle rationalise aussi tout à fait son discours en montrant que c'est lié à la santé, c'est lié à l'écologie. Il y a 20 ans, les gens avaient un discours qui était très lié à la santé, lié au fait de ne pas tuer pour manger, mais aussi lié au fait que ça devait permettre de nourrir toute la planète. Donc un discours assez nord-sud. Maintenant, on voit que le côté écologique, c'est-à-dire pollution de la planète, réchauffement de la planète, prend énormément d'importance. On n'aurait peut-être pas trouvé ça aussi fort à l'époque. Et puis, on voit que c'est une mangeuse assez stricte dans son point de vue, puisque contrairement à d'autres qu'on a entendus, elle ne se laisserait pas tenter, disons, par exemple, par une glace.
Et pourtant,
ça pourrait être tentant. Voilà.
Donc c'est pas
et une... elle revient tout de suite sur le discours de la souffrance des animaux et puis ensuite de la santé. C'est trop sucré, c'est trop gras.
Donc elle, ce n'est pas une flexi-végétalienne. Parce que ça, c'est aussi une nouveauté aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les flexi-végétariens. Végétariens par choix, par conviction, mais qui en même temps, se priver de steak à vie, ce n'est pas possible.
C'est effectivement le grand truc à la mode depuis, 4-5 ans, les flexi-végétariens. Mais ce qui prouve surtout que le végétarisme n'est plus un problème, puisque maintenant on peut l'adopter. Bien sûr, les personnes que j'ai étudiées à l'époque étaient plus strictes, elles n'étaient pas flexi-végétariennes, elles ne mangeaient pas de produits carnés, voire, si elles étaient végétariennes, pas de sous-produits animaux. Mais elles avaient aussi fait, un petit peu comme le raconte, je crois que c'est Noé, je ne sais plus, ou c'est l'autre personne, celui qui fait du régime paléolithique. Les gens passent pas brutalement d'un régime dit carnivore, hein, ou d'un régime plutôt omnivore, on pourrait dire, à un régime végétarien ou végétalien. Souvent, ils y vont par étapes. Et le végétalisme, c'est souvent effectivement une étape de plus après le végétarisme.
Chez nous, les crises alimentaires qu'on a pu connaître comme celle de la vache folle, elles ont une influence sur l'augmentation du nombre de végétariens ou de végétaliens même. Est-ce que finalement, c'est aussi changer de régime alimentaire, passer du régime omnivore à un régime plus strict? Est-ce que c'est aussi un acte de résistance contre la nourriture industrielle, une sorte d'acte politique finalement?
Oui, alors très clairement, les gens que j'ai rencontrés à l'époque et que je rencontre encore maintenant ne vont pas forcément décider du jour au lendemain de devenir végétarien au moment d'une crise. Hein. Ces crises de la vache folle, la crise du lasagne au cheval, il y en a eu tout le temps des crises. Il y en avait déjà au 17e, au 16e, au Moyen-Âge. Simplement, ça prenait une ampleur moins grande, on était moins au courant. Ça n'avait pas une ampleur planétaire, évidemment. Parce que le problème de certaines crises alimentaires, c'est un problème de traçabilité. On ne sait plus, c'est un peu comme un jeans, on ne sait pas où est fabriqué chaque élément du produit. Donc ça a pris évidemment une force très grande à notre époque de forte globalisation. Hein. Une crise où c'est pas forcément changer entièrement d'alimentation. Donc je pense qu'il y a une conjonction entre une crise, des choses qu'on vit dans notre monde de tous les jours, et puis des parcours de vie de ces gens-là. C'est aussi une forme de résistance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une forme de résistance politique. Il y a cette idée qu'on veut pouvoir tracer l'origine de sa nourriture, on prend conscience des problèmes écologiques, on en prenait déjà conscience avant, mais encore plus maintenant, de pourquoi manger quelque chose qui vient du Chili si on peut manger quelque chose qui a poussé chez nous. Donc forcément, il y a une économie en termes d'impact écologique. Donc il y a cette réaction-là, il y a cette réaction aussi, on va dire, je sais pas, au grand capital ou à la grande industrie, en disant... voilà, on en a assez d'être manipulé dans les produits qu'on a, donc on va manger au plus proche, voire chasser soi-même sa nourriture pour ce qui était du crédivore carné.